Les Jeux Olympiques d'hiver 2030 seraient les moins coûteux depuis 1988. Conclusion d'une étude menée par un cabinet parisien Asterès. Et les retombées seraient au rendez-vous. 5500 emplois créés dans les Hautes-Alpes, 380 millions d'euros de valeur ajoutée pour le département. Une étude qui intervient toutefois de façon précoce. 150 élevages touchés par la fièvre catarrhale ovine dans les Hautes-Alpes. Les députés Valérie Rossi et Marie-Josée Allemand demandent au gouvernement d'activer la réserve de crise européenne et de créer une zone tampon vaccinale. L'ONF fait sa rentrée nationale à Risoul, un territoire touché l'an dernier par les intempéries. L'occasion pour l'Office national des forêts de parler de trois problématiques, la gestion post-intempéries et des cours d'eau en montagne et la prévention contre les feux de forêt. Alpes 1 reportage quand des demandeurs d'emploi enfilent le tablier pour trouver du travail. C'est une initiative assez unique qui s'est implantée mercredi au lycée Martin Bray à Manosque, un restaurant éphémère. Des chômeurs ont pris les poils pour concocter un repas à destination d'une dizaine d'entreprises. Une autre façon d'attirer des candidats dans l'hôtellerie-restauration, un secteur sous tension. Mais tout d'abord, cet appel à la prudence ces prochaines heures dans les Alpes du Sud. Une tempête s'annonce du nom d'Étor. Elle va toucher l'est de la France et particulièrement la Savoie. Les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence sont placés en vigilance jaune, pluie, inondation par Météo France à partir de 16h. Les Jeux Olympiques d'hiver organisés en 2030 dans les Alpes françaises seraient les moins coûteux depuis 36 ans. Et à la clé, ce seraient pratiquement 50 000 emplois qui verraient le jour en France. Voilà les conclusions d'une étude menée par le cabinet parisien Asterès qui prévoit également des retombées importantes pour les Hautes-Alpes. Une étude à prendre toutefois avec un peu de distance, Nino D'Albera.
Ils sont promis comme les Jeux Olympiques d'hiver les plus verts et les moins onéreux. Ce sont les mots en juillet dernier lors de la candidature devant le CIO du président de la région sud, Renaud Muselier. Et selon le cabinet Asterès, le coût des JO 2030 serait en effet limité, les moins coûteux depuis Calgary en 1988. Mais on emploie bien évidemment le conditionnel car les experts sont partis du budget prévisionnel de cette candidature établi à 3 milliards d'euros. C'est donc si ce budget provisoire était scrupuleusement respecté, sans surcoût, que les Alpes françaises remporteraient la médaille d'or des Jeux les moins chers. Encore faut-il ne pas faire exploser l'enveloppe. Autre point, l'impact économique des JO d'hiver 2030 serait colossal. Il permettrait la création de 48 000 emplois à plein temps en France, dont 5 500 rien que pour les Hautes-Alpes. Quant aux retombées économiques, ce serait 3,6 milliards d'euros de valeur ajoutée sur le territoire national, soit environ 0,15% du PIB, et le département haut-alpin pourrait capter près de 380 millions d'euros. Mais là aussi, ce sont si les dépenses sont réparties à parts égales entre les Alpes-Maritimes, la Savoie, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes. Une étude qu'il faut donc prendre avec des pincettes alors qu'elle intervient à un stade précoce avec l'hypothèse que l'égalité soit de mise entre chaque territoire. Enfin, ce que cette étude ne dit pas, c'est si le gouvernement de Michel Barnier signera ou non la garantie financière de l'État.
Et sachez que le président du CIO, Thomas Barr, a accordé une rallonge à la France d'ici le 1er octobre. Une plainte déposée ce mercredi soir par une femme à la brigade de gendarmerie d'Embrun en cause d'une altercation entre elle, son chien et des patous dans la vallée de Crévoux. Une enquête a été ouverte. Selon les premiers éléments communiqués par le parquet de Gap, le chien de la randonneuse qui a été retrouvé par les pompiers a été blessé. Quant à la randonneuse, par contre, elle n'a pas été attaquée. Les investigations se poursuivent afin de comprendre les circonstances de cette altercation, comme nous l'indique Marion Lozac-Meur, la procureure de la République de Gap. Alors qu'on recense 150 élevages hauts alpins touchés par la fièvre catarrhale ovine, les députés du département interpellent Annie Genevard. Dans un courrier du groupe socialiste, Marie-Josée Allemand et Valérie Rossi demandent à la ministre de l'Agriculture d'activer la réserve de crise européenne. Elle permettrait de compléter les indemnisations françaises. Autre point, anticiper l'évolution de cette maladie en créant une zone tampon vaccinale. Il faudrait alors prendre en charge intégralement la vaccination pour le sérotype 8. Sachez que selon les jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes, la fièvre catarrhale ovine de type 3 pourrait prochainement impacter le département. Quant au pic de l'épizootie, il est attendu pour le 15 octobre prochain. Et donc, face à la fièvre cataralovine, les foires sans bétail se succèdent dans les Alpes du Sud. Autre cas, c'est la foire de la Saint-Michel à Barcelonnette ce samedi. Elle n'accueillera aucun ruminant, que ce soit des ovins, des caprins ou des bovins. Malgré tout, cette 23e édition reste maintenue avec la présence d'autres animaux comme des chevaux ou des volailles et bien sûr la tenue d'animation comme des démonstrations de chiens de berger, un marché paysan et artisanal ou encore la braderie des commerçants de Barcelonnette. Politique, Jean-Louis Brochier succède au département des Hautes-Alpes à Daniel Galland. Le conseiller départemental de Gap 2 est décédé le 14 août dernier. L'assemblée plénière lui a rendu hommage ce mardi en lui adressant de longues secondes d'applaudissements. Daniel Galland était délégué aux grands événements en binôme avec Marie-Vonne Grenier. L'ONF a choisi les Hautes-Alpes pour faire sa rentrée nationale. Chaque année, l'Office national des forêts se rend dans un territoire en fonction de l'actualité. L'an dernier, c'était les Deux-Sèvres. Et là, donc, c'est le département haut-alpin qui a dû faire face à de violentes intempéries. Trois problématiques ont donc été abordées. La gestion post-intempéries, la gestion des cours d'eau en montagne et la prévention contre les feux de forêt. Kelly Ozana.
Il y a 10 mois, le territoire haut-alpin et plus particulièrement le Guilestrois était touché par des intempéries, un événement centenal pour Météo France et qui mobilise depuis le 6 décembre les équipes de RTM, Restauration des terrains en montagne, une branche de l'ONF. Ce sont toutes les cartes de risque de crues et de glissements de terrain qui sont à refaire, un travail long mais important auquel se prête Marc Fouquet, le chef adjoint de RTM Hautes-Alpes.
Par exemple à Guilest, on est là pour conseiller la collectivité et l'État sur la réalisation des travaux de protection sur la zone des Iclas et notamment la réalisation de la digue en rive gauche sur le cône de déjection du Palps. Au niveau des campings, l'idée c'est déjà de faire un bilan du degré d'exposition et de voir un peu s'il y avait des solutions derrière pour réouvrir assez rapidement les campings. Alors à la fois des solutions de travaux, mais aussi des solutions de gestion de crise, c'est-à-dire de redéfinition, de seuil, d'alerte en fait, pour évacuer préventivement les campeurs.
RTM et l'ONF contribuent à la prévention des risques répondant aux sollicitations des pouvoirs publics sur les dangers encourus lors d'événements climatiques. Au-delà de ces missions dans l'urgence dans les cours d'eau, d'autres sont menées en prévention en amont. Bien en amont de la montagne, avec des barrages comme l'érosion de la montagne, c'est notamment ce qui est entrepris sur le Boscodon et ses affluents par les équipes de François Hortard, responsable ONF du secteur embruné.
Des ouvrages qui peuvent être soit en dégénérescence biologique, en bois, ou alors des ouvrages en béton armé qui peuvent faire des fois 8 mètres de haut. C'est vraiment fait pour ralentir la force de l'eau et pour que l'eau, en ralentissant, se dépose sur l'atterrissement des barrages. Et en fait, il n'y a plus que l'eau qui descend et pas les matériaux qui causent des gros dégâts. En fait, quoi.
L'érosion est empêchée grâce aux arbres, des arbres haut-alpins qui, dans les prochaines années, seront, d'après le GIEC, de plus en plus en proie aux feux de forêt en raison du changement climatique. Jusque-là cantonnés au sud-est de la France, des patrouilles de surveillance de l'ONF ont été généralisées à l'échelle nationale dans les Hautes-Alpes. Elles sont au nombre de 5, précise Hervé Ouin, le directeur de l'ONF sur la région Occitanie-Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'atout du dispositif national, c'est de permettre des patrouilles tous les jours pendant l'été. Donc ils sont dotés de véhicules avec des réserves d'eau, avec des pompes. Sur commandement des pompiers, ils peuvent intervenir très rapidement dès qu'une petite fumerole est détectée. 90% des incendies sont éteints grâce à ces dispositifs de patrouille estivale qui permettent d'éteindre rapidement les départs d'incendie.
Un dispositif qui convient parfaitement aux pompiers des Hautes-Alpes peut solliciter cet été sur des feux de forêt par rapport notamment aux incendies de l'été 2023.
Dans les Hautes-Alpes, les feux de forêt sont souvent causés par la foudre qui frappe parfois dans des zones reculées. Les patrouilles de l'ONF sont donc appréciées pour leur connaissance du territoire. Quand les fourneaux permettent aux demandeurs d'emploi de trouver du travail, c'est une première dans les Alpes d'Haute-Provence. Un restaurant éphémère s'est installé mercredi au sein du lycée Martin-Bré à Manosque. Une initiative de l'UMI avec France Travail, la mission locale et l'UDE 04. Des chômeurs ont donc pris poêle et tablier pour concocter un repas à destination d'une dizaine d'entreprises du territoire. Une autre façon de recruter et d'attirer des candidats dans l'hôtellerie-restauration, un secteur sous tension. Le reportage d'Aurore Valory.
Là, on est sur un petit veau, un petit faux veau qu'on va bien faire réduire pour obtenir un jus un peu sirupeux.
Frédéric Valette de Bord est professeur d'organisation et de production culinaire au sein du lycée Louis-Martin Brett. Dans le cadre de ce restaurant éphémère, les formateurs ont été mis à disposition pour transmettre leur savoir.
On a un menu assez technique, avec plein de choses à faire. Enfin, on essaie de leur montrer un maximum de choses pour qu'ils voient une partie de tout ce que la cuisine peut proposer, quoi.
Car c'est bien la particularité ici, les demandeurs d'emploi n'ont pas forcément une expérience dans ce secteur. C'est le cas de Patrick, 61 ans, et de Nigel, 21 ans.
J'ai toujours aimé cuisiner, mais là, travailler avec des chefs, c'est la première fois. Si c'est à refaire, je le refais.
Actuellement, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Du coup, je me suis dit que ça peut être une bonne expérience à voir si ça peut m'intéresser dans le futur. Franchement, c'est enrichissant. On apprend pas mal de choses.
Les épinards, on est bon. Chef, c'est bon, tout est propre, impeccable. On va se mettre sur les échalotes.
Ambiance studieuse au sein des cuisines, il faut dire que ces 14 candidats ne vont pas être jugés sur leur CV, mais bien sur leur capacité, explique Béatrice Vigani, responsable d'équipe à France Travail à Manosque.
L'idée, c'est de recruter autrement. Et là, on recrute sans CV aujourd'hui sur cette méthode, comme sur d'autres aussi. Donc on ne cherche pas l'expérience, on ne cherche pas les diplômes. C'est ouvert aux personnes curieuses, comme aux passionnés. Une personne qui aime beaucoup faire la cuisine chez elle peut tout à fait postuler ainsi et prouver en direct au recruteur qu'il a des compétences.
Un dispositif qui se veut gagnant-gagnant, il doit permettre d'attirer de nouveaux candidats dans un secteur en tension, tel que l'hôtellerie et restauration, rappelle Lydia Fenois, présidente de l'UMI 04.
Ça les intéresse, puisque comme vous le savez, on a d'énormes difficultés de recrutement dans notre profession. Donc c'est un bon moyen de mettre en place et de créer un lien entre les demandeurs d'emploi et les restaurateurs.
Éclair aux noix de Saint-Jacques, filet de veau et sa sauce caramel, coco sésame ou encore tartelette avec sa chantilly tonka. Le menu du jour avait de quoi susciter l'appétit des convives. Une quarantaine de couverts ont été servis ce mercredi. Un repas qui a été suivi d'un temps d'échange entre les recruteurs et les candidats.
Et notez que l'UMI souhaite mettre en place ce type de restaurant éphémère au moins deux fois par an avant chaque saison. Les caméras d'Alex Hugo, de nouveau dans le Briançonnais. Le 32e volet de cette série de France 3, intitulé Le Nouvel Eldorado, est en tournage. Une vingtaine de jours sont prévus sur plusieurs secteurs, le Pays des Écrins, mais aussi le Grand Briançonnais. Une vingtaine de comédiens, une cinquantaine de techniciens, mais aussi jusqu'à 40 figurants pour certaines séquences sont mobilisés. Il s'agit de la 11e saison de la série policière sur le département des Hautes-Alpes. Entre 3 et 5 millions de téléspectateurs suivent en prime time chaque épisode. Et preuve de l'attrait des paysages alpins depuis le début de l'année, 4 longs métrages, 2 fictions, 2 courts métrages, 4 documentaires et 4 publicités ont été tournés dans les Hautes-Alpes, soit 245 jours de tournage.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.